Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures de bonne humeur et de découverte pour vous, de stress et de coups de poignard dans le dos pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Tous les coups sont permis pour décrocher la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour. Et nos deux premiers concurrents, Axel de Tarlet, notre expert éco, et Anissé Mbida, le beau gosse de l'innovation, le savent parfaitement. Ils ont déjà commencé à se chauffer hors antenne. Visiblement, Axel ne supporte plus l'image de Playboy d'Anissé.
Ah, voilà enfin le roi de la classe. Style le grand Playboy qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères.
Tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde.
Et je t'arrête tout de suite.
Messieurs, un peu de tenue, quelle image allez-vous donner d'Europe 1 à notre invité du jour? Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur oscarisé de The Artist et également des deux OSS 117, Le Kerni d'Espion et Rio ne répond plus, qui, si ça n'avait tenu qu'à moi, aurait reçu aussi deux Oscars. Et l'un de vos premiers films, en fait, un détournement de film culte, est aussi la Madeleine de Proust de toute une génération. On vient d'en entendre un petit extrait, il s'agit de La Classe américaine qu'on peut désormais se procurer en livre. Comment on pourrait résumer, Michel, ce qu'est La Classe américaine pour quelqu'un qui, contrairement à moi, ne l'aurait jamais vu ?
Comme peut-être un des films les plus débiles qui ait jamais été fait, mais avec beaucoup de sérieux, par contre, oui. Et avec un des plus beaux castings du monde en même temps. Il y a à la fois John Wayne, Burt Lancaster, Dustin Hoffman, Robert Redford, enfin plein d'acteurs mythiques qui disent plein de conneries, tout aussi mythiques d'ailleurs.
Et ce qui est fou, c'est que vous avez, on va en parler tout à l'heure, mais vous n'avez jamais été poursuivi pour ça. C'est-à-dire que, parce que vous, j'imagine que vous n'avez pas les droits de ça. Enfin, on ne peut pas détourner, faire dire ce qu'on fait dire dans ce film à John Wayne. Il n'y a pas eu de problème juridique.
Non, on était un peu sur le fil, en fait. C'est-à-dire qu'on on était quand même vaguement couvert par quelqu'un de Warner à l'époque. Mais on n'a pas 100% les droits, non.
C'est
pas tout à fait honnête, mais c'est pas sûr. Tout à fait malhonnête.
Non, juste une précision, ouais. C'est que La Classe américaine, vous pouvez le regarder sur YouTube aujourd'hui.
Ah,
voilà,
oui,
c'est disponible.
C'est disponible,
voilà.
Et vous pouvez le regarder.
Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir cette œuvre magistrale.
Et on va aussi parler d'une masterclass qui arrive sur Canal+, elle s'appelle Magistrale, et vous donner un cours complet de l'écriture du scénario jusqu'à la sortie du film. C'est toujours gratifiant pour un réalisateur de parler de son métier, ou bien comme un magicien, il n'aime pas révéler ses tours en réalisation.
Non, c'est agréable. Après, on se demande toujours si ça intéresse vraiment quelqu'un, mais c'est agréable parce que d'habitude, quand on parle d'un film en particulier, etc. Mais on parle pas tant de ses doutes, de ses de la manière dont sont faites vraiment les choses, quoi. Donc, de parler de son métier, je trouve ça toujours agréable, ouais.
Alors, Michel Hazanavicius, on va parler de cette masterclass, on va parler du livre La Classe américaine, mais d'abord, je vous présente pour de bon cette fois nos concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. J'ai cru comprendre que vous n'avez rien contre la compétition.
J'aime me battre.
Voici donc les forces en présence. À ma gauche, il a reçu en 2003 le Dauphin d'Or du meilleur journaliste éco, c'est Michel l'équivalent de l'Oscar pour les journalistes. Et en ces temps de défiance envers notre modèle économique, il est la voix rassurante du capitalisme qui nous dit « Vous inquiétez pas les pauvres, ça va bien se passer ». Même en pleine crise, il trouve toujours des raison de se réjouir.
On ne fait que se lamenter sur les 30 millions de chômeurs aux États-Unis, mais on oublie les actionnaires.
Ah ouais, il ne faut pas les oublier. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
Votre sujet aujourd'hui, Axel, si on arrêtait de se focaliser sur le PNB ou le PIB et qu'on réfléchissait plus en termes de BNB.
Voilà, exactement. C'est une contre-chronique, une chronique très monde d'après aujourd'hui que je vous propose. Effectivement, plutôt que de s'intéresser à la croissance, à la production, aux bénéfices, au CAC 40, aux actionnaires, c'est tout le contraire. On va s'intéresser à l'environnement, à la santé, au bien-être, au nombre d'hôpitaux. Et vous savez qu'il y a un indice qui calcule tout ça, c'est l'indice du bonheur national brut.
Et on n'est pas très bon.
Non, on n'est pas très bon. Mais...
ça, on verra.
Je voulais dire en fin de chronique, on ne va pas plomber le sujet, mais vous l'avez révélé.
À ma droite, Michel Hazanavicius, je vous présente donc le playboy de la bande. Il a beau s'en défendre à la machine à café, il y a toujours un petit attroupement autour de lui. Bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Mathieu Noël.
Ça
vous va
très bien ça, Anissé.
Vous êtes notre expert innovation. Avec quel sujet allez-vous nous surprendre aujourd'hui?
Et moi j'arrive avec une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne supportent plus les trottinettes qui sont abandonnées sur les trottoirs dans les villes. Il va y avoir de nouveaux modèles qui vont pouvoir aller se ranger tout seuls à leur point de stationnement.
Toutes seules comme la Batmobile, elles vont venir à nous et...
Mais j'ai vu ça dans un film récemment.
Mais là, ça vient d'ouvrir.
Je me souviens plus du film.
Il me reste également à présenter à Michel Hazanavicius, évidemment, ma fidèle complice Eva Rock, mais je crois que vous la connaissez déjà.
Ce sillon ma mère impeccablement dessiné.
Oui.
C'est téton qui pointe à la moindre émotion, à la moindre brise. C'est téton qui a envie de mordiller.
Comment vous mettre bien avec l'invité qu'on connaît pas, quoi.
L'équipe est sauvage.
On sort de l'interview parce que j'ai Michel Hazanavicius en ligne avec moi, je suis tout ému. Par exemple, toutes ces répliques, elles sont toutes nées dans votre esprit. Par exemple, ces tétons qui pointent à la moindre émotion, à la moindre brise, ça c'est vous, un jour vous avez écrit ça comme ça, c'est venu comment?
Alors ça précisément, je pense que c'est Jean-François Alain.
C'est Jean-François Alain, c'est
ouais, mais je vous avouerai que c'est très compliqué quand on écrit à deux, au bout d'un moment.
On ne sait plus, oui.
Quand bien même vous êtes celui qui dit le truc... Ça n'arrive pas si l'autre n'a pas travaillé avec vous avant et tout ça. Donc j'ai tendance toujours à dire que c'est quand même un truc d'équipe.
Ah oui, voilà. Non, c'est sûr.
Ce qui est une manière vachement humble de ne pas tirer la couverture à moi, évidemment. Parce que...
ouais, c'est classe, c'est bien joué, Michel. Alors là, une masterclass sur Canal+ nous permet de découvrir la manière dont vous travaillez, toute l'œuvre de création de A à Z. C'est ça qui est passionnant dans cette masterclass. Et c'est pas compliqué quand on est artiste de parler de ça, parce que ça reste quand même un... Comment dire, tout n'est pas rationnel dans la manière dont on travaille quand on est scénariste. Est-ce que vous arrivez facilement à l'expliquer?
Non, facilement, non, mais enfin, bon, moi, c'est pas moi qui ai proposé à Canal+, d'aller les voir et leur disant, écoutez, j'ai un truc vachement bien, c'est, je vais vous raconter comment je travaille. Donc, ils viennent me voir, on parle un petit peu, je leur dis, voilà, moi, ma méthode de travail, c'est ça. Et puis, eux, ils me disent, bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherche, et donc, je me lance là-dedans. Mais en gros, j'essaye de donner quand même, moi, comme j'ai une méthode, un petit peu de travail, et ben je voilà, c'est de ça dont j'ai parlé, quoi.
Ouais, vous êtes très minutieux, hein, il faut
c'est très structuré,
pour ceux qui connaissent pas bien la comédie, c'est ce qui exige le plus de précision, et vous êtes dans un travail de haute précision, quoi.
Ben j'essaye de faire, y a rien de plus triste qu'une vanne qui marche pas, qui tombe à côté, où on sait que pourtant il y avait un truc hyper marrant. Et puis ça fait un four, voilà. Donc j'essaye de les travailler au mieux, quoi, pour que ça fasse marrer, quoi.
On parlait des dialogues, l'importance des dialogues. Vous dites, je n'aime pas les dialogues qui sont au-dessus des personnages. Vous n'êtes pas qu'un homme de dialogue. Vous savez, quand on voit 1717, moi je vous considérais un peu avant comme un réalisateur très pointu sur les dialogues uniquement. Puis il y a eu The Artist, pas de dialogue du tout,
ouais.
Qui prouve que voilà, vous avez une autre manière de vous exprimer. The Artist, film muet. Jean Dujardin, je crois, a été déstabilisé par l'absence de texte au début. C'est vrai cette histoire qu'il a un petit peu hésité.
Oui, c'est vrai parce que lui, il s'attache énormément au texte. Mmh. C'est-à-dire que lui, il fait ses gammes en répétant des phrases qu'on a même déjà tournées la veille, en fait. Donc, il a une approche qui est vachement, vraiment, enfin, collée au texte. Après, d'abord, il y a quand même quelques dialogues dans The Artist. Ils sont écrits, mais ils sont pas mal. Moi, je les aime bien, les dialogues. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien quand l'image raconte. Et du coup, les dialogues, c'est vraiment les dialogues. Ils sont pas là, c'est pas des béquilles pour faire avancer l'histoire, quoi. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec les dialogues. Après, moi, j'adore ça. Mais ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est prendre justement des personnages qui parlent, des bavards, quoi. Jean-Luc Godard, comme OSS, c'est des parleurs, quoi. Donc, on peut leur mettre des dialogues très écrits, très, comment dire, même surannés, avec un vocabulaire très spécial. Et ça fonctionne parce que le personnage l'encaisse, quoi. Mais si vous faites un monsieur tout le monde aujourd'hui, quotidien, etc., il n'a aucune raison d'avoir des phrases
compliquées
avec une tournure très musicale, quoi.
On pourrait écouter pendant des heures, Eva. Hein.
Ouais.
Michel Hazanavicius, vous l'aurez compris, fait partie de ces invités dont je suis vraiment fan, d'où les hectolitres de flagornerie que je déverse sur lui aujourd'hui. Pas trop gênant, Michel?
J'aime quand on m'enduit d'huile.
Une chance pour moi.
Europe 1.
À suivre, la semaine dernière, il vous expliquait comment maximiser vos matchs sur les applis de rencontre, sujet pour lequel il avait intensément bossé, poussant l'investigation très loin, directement sur Tinder.
Je m'appelle Anissé, j'ai plein de trucs à partager, je suis dispo pour en discuter.
T'inquiète chérie, c'est pour le boulot, avait-il lancé à sa femme. Aujourd'hui, Anissé Mbida nous parle d'un sujet qui va faire débat. Vous aimiez déjà les trottinettes électriques, vous trouvez qu'il n'en avait pas assez sur les trottoirs des grandes villes. Découvrez les trottinettes électriques téléguidées. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage.
Dans une émission comme la nôtre, nos journalistes le savent, le sensationnalisme et le racoleur ne payent pas. Amuser l'auditeur, oui. Les moustiller, non. Anissé Mbida, notre expert innovation, l'a appris à ses dépens la semaine dernière avec sa chronique sur le nouveau téléphone qui permettait de voir à travers les vêtements. Un procédé choquant qui, justement, autour de la table, nous a tous choqués. C'est en tout cas ce qu'on a dit à l'antenne. Même si, le lendemain, quand on en a reparlé pendant la pub, on s'est un peu trahi.
Le téléphone qui permet de voir à travers les vêtements, ils ont réagi, ils lancent une mise à jour pour supprimer le truc.
Oh non ! On s'est trahi. Bon, aujourd'hui à Nice, un sujet moins risqué, les trottinettes électriques.
Ouais, enfin moins risqué, ça dépend. Si vous en prenez
non.
une.
Écoutez, non, écoutez, les trottinettes électriques téléguidées.
Ah. C'est-à-dire qu'ils vont se ranger toutes seules.
Et ne plus, encombrer,
et ne plus encombrer
les trottoirs et
les
faire
trottoirs.
Tomber mamie.
Exactement.
Bah, c'est si en se rangeant, elle renverse mamie.
C'est vrai ça.
Bah, oui.
Et puis surtout, mamie ne va pas comprendre pourquoi une trottinette marche tout seule.
Exactement.
Elle va se dire. Je deviens complètement
vous
chèvre.
Vous aviez un sujet, vous l'avez plus.
Je vous laisse. Non, c'est un service qui vient d'ouvrir. Il y a quelques jours, c'était en fin de semaine dernière, aux États-Unis, près d'Atlanta. Donc, on n'est pas dans Black Mirror, Upload ou n'importe quelle série. C'est quelque chose qui est actif depuis quelques jours. Et donc, vous l'avez dit, c'est assez surréaliste parce que là-bas, aux États-Unis, près d'Atlanta, on voit des trottinettes fantômes qui se promènent toutes seules dans les rues. Dès qu'on a terminé sa course, on verrouille l'appareil avec son application et hop. La trottinette va retourner tranquillement à son point de stationnement. Elle est nettoyée. En ce moment, c'est très important avec les virus. Elle est rechargée, désinfectée, etc. Elle attend le prochain client. Mais ça veut dire aussi qu'on n'ira plus chercher sa trottinette. C'est sa trottinette qui va venir tranquillement nous retrouver, exactement comme si c'était un VTC, exactement comme si c'était un Uber.
Et Eva, tu l'as entendu, le son que je vais pouvoir réutiliser là, Denis C.
Qu'est-ce
que c'est une phrase magnifique.
Non,
elle est nettoyée, préparée, elle est prête à attendre le prochain client.
Et voilà, c'est ça.
C'est un très bon son, Denis C. C'est une question qui me vient parce que mon fils fait beaucoup de trottinettes. Il a du mal à passer de la trottinette à trois roues pour bébé à la trottinette à deux roues. Comment elle fait pour se stabiliser seule, la trottinette
à deux roues? Elle a trois roues, il y aura des modèles qui auront trois roues comme pour les enfants, où il y aura des petites roues sur les côtés. C'est pas tout à fait les mêmes que celles qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut quand même préciser que ce ne sont pas des trottinettes autonomes, ce sont des trottinettes téléguidées. En fait, il y a des caméras à l'intérieur, des capteurs, et donc elles sont contrôlées à distance par quelqu'un qui est devant son ordinateur.
Voilà, d'où l'idée qu'on ne renverse pas mamie. Parce que sauf si le type, il est vraiment vicieux et qu'avec
Il a une caméra à 360 et il voit la mamie qui va sortir d'une rue.
Oui, et en plus, les trottinettes iront tout doucement pour
J'aime bien votre confiance
dans
les nouvelles technologies.
C'est mon boulot, si j'avais pas confiance,
c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on la renverse?
Oui, s'il y a des incivilités, des gens qui les mettent par terre, justement, ça sera comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des employés qui sont là pour les recharger, mais là, ils vont se déplacer pour aller remettre la trottinette debout et la faire se circuler. Donc,
pardon,
oui, c'est prévu.
L'idée de renverser la trottinette dès qu'elle passe devant vous, moi, ça, c'est un jeu que je
préférais
beaucoup.
Une parisienne.
Vous êtes la reine des incivilités, Eva. Alors, est-ce que ça pourrait arriver en France déjà, cette
trottinette ? Figurez-vous qu'on y réfléchit. On y réfléchit parce qu'il y a des tests en cours et la seule question, c'est le salaire des personnes qui vont télécommander ces fameuses trottinettes. Parce qu'aux États-Unis, ce sont des Mexicains. Donc vous savez que le SMIGO...
Mais non.
Si, c'est fait à distance. Donc, ils peuvent télécommander dans la ville d'à côté ou bien dans le pays d'à côté.
Ah oui, ils sont tous de l'autre côté de la frontière mexicaine.
Parce que le SMIG, le salaire moyen, est beaucoup moins cher. Donc, en France, ils se posent la question aussi. Ils aimeraient pouvoir les téléguider depuis le Maghreb ou depuis les pays de l'Est. Donc, c'est avant tout un problème de modèle économique. Mais ils seront peut-être obligés de s'y faire. Ils seront peut-être obligés de les installer, ces fameuses trottinettes, parce que la loi est devenue beaucoup plus sévère pour les opérateurs aujourd'hui. Donc, ils n'auront peut-être pas le choix s'ils veulent que leur système soit accepté par les villes et surtout par les piétons.
Axel de Tarlet.
D'autant que la question avec le télétravail, maintenant, c'est également le travail des cols blancs qu'on va pouvoir faire à distance. C'est-à-dire qu'on va trouver un Mathieu Noël ou un directeur des usines à l'autre côté de la Terre.
Au Maghreb,
on est moins cher.
Eh ben, on est bien barré, Axel.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on fera?
Piéton.
Très bonne référence. Il faudra aussi régler le problème des casques et des accidents, Nice.
Alors, ça commence aujourd'hui à Paris. Un opérateur qui lance un service assez intéressant, c'est que vous avez la trottinette classique, mais en dessous du guidon, il y aura un petit boîtier qu'on va déverrouiller en même temps que l'application et il y aura un casque pliable à l'intérieur. Ça commence là ce lundi matin et l'intérêt c'est justement...
S'il est pliable, en cas de choc, il va être pliable aussi.
Non, il est homologué évidemment, sinon ça ne marcherait pas et ça fonctionnerait certainement pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas obliger les gens à acheter un casque sur les trottinettes parce que c'est une utilisation ponctuelle. Donc c'est un système qui est très intéressant d'avoir le casque à disposition dans toutes les trottinettes et même peut-être dans les vélos électriques. Vous savez, moi je suis un peu libéral, un peu comme mon camarade Axel de Tarlet, mais toutes ces lois un peu contraignantes, ça a créé de l'innovation du côté des trottinettes, des opérateurs, et puis tout le monde en profite aujourd'hui, même si certains emplois pourraient partir de l'autre côté de l'Atlantique, ou de la Méditerranée.
Vous avez fait une référence à Axel de Tarlet, il n'est plus du tout libéral, il est limite communiste maintenant, il a complètement payé.
Moi, je suis prêt à toutes les compromissions pour une bonne chronique.
C'est magnifique. Merci Anissé Mbida et Eva. Histoire de casser un peu l'image de grand séducteur d'Anissé qu'il n'aime pas trop d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous révéler où il vous a emmené dîner à l'époque où il vous draguait?
Au Flunch.
Voilà, moins 12 points d'un coup.
Europe 1.
C'est un génie du cinéma. On lui doit...
Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo ?
musulmans.
Mais aussi...
Tiens, regarde, les Anglais ont débarqué. On va être obligé de passer par derrière. Tu sais, par ce tunnel tout sombre qui sent pas très bon.
Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça.
Tu m'étonnes. Michel Hazanavicius, le réalisateur des OSS et de la classe américaine, donne une masterclass exceptionnelle demain soir sur Canal+. Il est notre équipier sauvage cet après-midi.
Europe 1, l'équipier sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage semi-déconfinée, puisque si les journalistes nous ont rejoints en studio, Eva, nos invités, eux, sont toujours en ligne avec nous aujourd'hui. Un immense réalisateur. Il y avait même Eva, en référence à un de ses films cultes, le réalisateur le plus classe du monde.
Moi, je pense qu'il n'avait pas plus de classe que de beurre au cul. J'ai jamais compris comment il a eu
titre. Je vois que vous êtes fan aussi, Eva. Michel Hazanavicius est au téléphone avec nous cet après-midi pour fêter la sortie de La classe américaine, le livre. Alors, Michel, le grand public vous connaît pour The Artist, 5 Oscars, on le rappelle, la série des OSS 117. Mais les vrais fans connaissent tous votre œuvre de jeunesse, co-réalisée avec Dominique Meseret. Comment expliquer La classe américaine aujourd'hui? C'est vrai que ça part d'une demande de Canal+, à la base, ça devait être un hommage au cinéma américain, et puis vous êtes parti en vrille.
Non, en fait, ils savaient, hein, les producteurs savaient à peu près où, parce que c'est le troisième d'une série comme ça de films de détournement qu'on a fait. Et il se trouve que le patron de Warner Télévision France était complètement fan, donc il nous a couvert. Il savait à peu près, il savait très bien où on mettait les pieds. Par contre, quand ils ont vu le truc fini,
ils ont dit
on le passe une fois sur Canal+, et après, plus personne ne voit ce truc, quoi. Et ça s'est pas passé comme ça, tant mieux, heureusement.
On invite tous les auditeurs à découvrir donc ce film qui est disponible gratuitement sur YouTube. Voilà. Mais donc dans le livre, il y a vraiment un avantage comparatif très fort, puisqu'il y a une immense préface avec, mais vraiment qui est drôlissime. Ça fait longtemps que j'ai pas ri comme ça en lisant. Donc c'est évidemment une notice historique et littéraire, une introduction par Alain Vecaux et Raymond Fucre. Et alors, je lis juste l'intro pour donner le ton. Quand en 1993, Michel Hazanavicius et Dominique Meseret se lancent dans l'écriture de La classe américaine, ils cherchent une forme dramaturgique singulière. Ils portent en eux l'intuition d'une œuvre qui, empruntant la voie de l'hommage à une certaine tradition culturelle, y introduira une critique radicale, produira un choc, conduisant à une prise de conscience de l'aliénation qu'elle recèle, idéologique, morale, existentielle et esthétique.
Pour dire que c'est juste un détournement avec des images et des faux dialogues.
C'est vraiment drôlissime, drôlissime. Ça vous fait rire? Est-ce que quand vous regardez, est-ce qu'il vous arrive, vous, Michel Hazanavicius, comme vos fans, de regarder parfois, de retomber sur La classe américaine? Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'à l'époque, vous aviez 25 ans quand vous l'avez réalisé, est-ce que vous vous imaginiez que ça devrait être comme ça un objet culte?
Non, pas du tout, parce que c'était une émission de télé, donc par définition, c'est censé être éphémère, donc et puis il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il n'y avait aucune raison de penser que les gens pourraient le regarder comme ça aussi facilement. Et voilà. Après, pour répondre à votre première question, je le regarde... Pas vraiment. Là, j'ai dû le regarder parce que comme j'ai fait les illustrations du bouquin, voilà, il a fallu que je le regarde, etc. Et je le ferai différemment forcément aujourd'hui, mais bon, je suis tellement content que le truc continue à vivre tout seul, qu'il y ait des gens. Il se passe pas une semaine sans qu'on me parle de ce film, donc si vous voulez, c'est un bon compagnon ce film.
Michel Hazanavicius, vous parliez des illustrations que vous avez réalisées là pour le livre. On découvre notamment dans Magistral, l'émission de Canal+, vos cahiers sur lesquels vous commencez vos histoires. Il y a beaucoup de dessins qui sont très très bien réalisés. C'est vraiment une œuvre d'art. Est-ce que vous avez une frustration à pas être illustrateur, à pas être peintre, je sais pas, mais j'ai trouvé que vous aviez un trait qui était incroyable, qu'on découvre à la fois dans Magistral et dans ces illustrations.
Ce qu'elle veut dire, c'est que vous avez un peu tous les talents et que vous êtes un peu dégueulasse.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Je chante un peu aussi, je fais de la culture.
J'en étais sûr.
Non, j'ai pas vraiment de frustration, mais j'ai des amis qui sont dessinateurs et je trouve ça hyper classe quand j'ai un copain qui me dit il faut que je finisse mon dessin de trucs, que je la rende et tout. C'est hyper beau de partir de rien, de fabriquer une image, et puis voilà, c'est votre métier. J'adore ça, ouais.
Alors Michel, flagornerie sur toute la ligne, non. Ma dernière question, c'est quand même une question piège, mais en tant que fan de SS117, je ne peux pas ne pas la poser. Ben non, parce que les fans s'interrogent. Pourquoi c'est pas vous qui êtes aux commandes du 3? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le scénario vous convenait pas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour cet SS117-3 que réalise Nicolas Bedos?
C'est vraiment une question piège. Et écoutez, ils m'ont fait une proposition que je ne pouvais pas accepter. Voilà.
Financière ou sur le scénario?
Non, surtout sur l'ensemble. Non, c'était pas financière. Ça n'a même pas été jusqu'au financier.
D'accord.
Non, non, c'était l'ensemble, si vous voulez, qui était pas... on ne pouvait pas travailler, voilà. Il s'est avéré qu'on ne pouvait plus travailler ensemble, quoi.
D'accord. Bah, mais c'est triste pour tous les fans de SS117 hein, que j'ai revu encore hier soir, n'est-ce pas?
Non,
une fois de plus, une 17e fois. Ça fait du bien. Merci beaucoup, fatigue. Michel Hazanavicius. Je rappelle, le livre, vous m'avez piqué le livre, et ben non, rendez-le-moi, La classe américaine, effectivement, chez Alary Édition, pour découvrir les coulisses de ce film culte. Merci beaucoup. Et la masterclass.
C'est sur Canal+.
Demain soir, 22h45, si je ne m'abuse, Eva.
Exactement.
Merci beaucoup, Michel Hazanavicius, d'avoir passé un petit moment
merci
sur Europe 1 cet après-midi.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Sa dernière chronique en compétition avait été, on va dire, un demi-succès. Puisqu'en effet, chose rare dans l'histoire de la radio professionnelle en tout cas, au détour d'une formulation, Axel de Tarlet s'était grillé, révélant qu'il nous refourguait en réalité une chronique qu'il avait déjà faite au mot près dans la matinale d'Europe 1. Vous recyclez votre édito que vous avez déjà fait dans la matinale.
Tout le monde se met à l'écologie, on recycle.
Oui, aujourd'hui, promis, une chronique inédite d'Axel de Tarlet. Et si on disait adieu au PIB et qu'on se focalisait désormais sur le BNB, le bonheur national brut? Oui, Axel est vraiment en train de virer socialo. Ce sera juste après Mary J. Blige, Family Affair. Sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Family Affair, c'était excellent, Eva. Hein,
oui, c'était très très bien.
C'était très très bien. Eh ben, oui, mais ça, c'est le choc des générations. Ouais, vous n'aimez pas, mais moi j'adore. Ouais, ouais. Marie J. Blige sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est un...
Mais les off, en plus, on pourrait vérifier si c'est vrai ce que je dis ou pas.
On va vite vérifier dès demain. C'est un... Je crois que le mot d'audace a été prononcé.
Bon,
c'est
quand même
un mot assez violent en termes de critique musicale. C'est un journaliste aux mille et un talents qui s'avance maintenant vers le micro. Car Axel de Tarlet n'est pas qu'un expert éco hors pair, maîtrisant sur le bout des doigts les plus complexes mécanismes boursiers, il y a également en lui un artiste. Dans sa jeunesse, n'était-il pas le lead singer d'un groupe de hard metal baptisé Venin ? Alors bien sûr, les années ont passé et le côté rebelle et transgressif s'est un peu estompé, mais à chaque coupure pub, l'artiste renaît sous l'économiste.
Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas.
Ah oh, putain, il me fait chanter ce con.
Axel de Tarlet, cet après-midi, vous nous annoncez que le PIB ne vous intéresse plus. Là, vous avez tout lâché là pendant le confinement. Là. Désormais, vous voulez vous concentrer sur le bonheur avec le BNB.
C'est ce qui s'appelle casser le thermomètre. Quand des chiffres sont épouvantables,
voilà. Ah oui, c'est bien.
Comme c'est le cas en ce moment avec le PIB, on dit bon, on va plus regarder la production parce qu'on va faire moins 15 là au deuxième trimestre. Donc on va regarder autre chose.
On va regarder moins 15%.
Bah oui, on a fait moins 5,8 alors qu'il n'y avait que 15 jours de confinement. Ouais. Vous allez voir le deuxième trimestre. Parce que là, il y a un mois et demi de confinement. Mmh. Donc le chiffre va être... Là, on va exploser tout l'air. C'était déjà un record, hein, moins 5,8. Mmh. Donc là, moins 15, moins 20, vous allez voir les commentaires.
Alors repartons sur le côté rieur.
Alors voilà.
Le BNB.
Alors du coup, on s'est dit, on va arrêter de regarder ces chiffres de croissance, on va regarder les chiffres de bonheur. Vous savez qu'il y a un pays qui fait ça, c'est le Bhoutan. Et d'ailleurs, de la même façon, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est la grande astuce. Quand on n'a pas de production, du coup, on regarde si on est heureux. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'au Bhoutan, j'ai regardé, il y a 72 critères. Donc, c'est très compliqué, en fait. Trop de critères, tue le critère. En revanche, il y a l' ONU qui, chaque année, établit le classement du développement humain, l'IDH. Et alors ça, c'est un truc, du coup, il y a trois piliers pour calculer l'IDH. On regarde le revenu par habitant, quand même, comme quoi il y a un peu d'argent, la santé, et on regarde l'éducation. Et donc ça fait le développement humain. Est-ce que vous êtes dans un pays où ces trois critères vont bien?
Pardon, mais l'IDH, c'est un vieux critère. L'IDH, c'est le BNB, c'est la même chose?
Non, c'est parce que je vous ai expliqué que le BNB, comme il y avait 72 critères...
Ah, parce que le BNB, c'est que le critère...
C'est que le Bhoutan qui a inventé ce concept de bonheur national brut.
Ils ont un ministère, d'ailleurs.
Voilà.
Le ministère du bonheur.
Ouais, voilà. Mais comme personne ne les a copiés, parce qu'il y a 72 critères, voilà. En revanche, l'ONU, chaque année, établit pour tous les pays du monde le classement du développement humain. Et donc, il y a un numéro 1. Et la France, effectivement...
On
n'est pas très bien classé.
Ah bon?
C'est très surprenant.
Il ne fait pas bon vivre en France.
Eh ben voilà, on croit qu'on est le pays du bien vivre. Hein. Vous savez, les Allemands disent heureux comme Dieu en France. Et nous ne sommes que 25e, alors que les Allemands sont 4e de ce classement.
Pop, pop, pop.
Mais ce qui est surprenant, c'est que nous sommes aussi derrière les États-Unis où on dit ils se tirent dessus, etc.
Ouais, ouais,
ils sont 15e en développement humain. Nous sommes 25e.
Bah alors, donnez-nous la liste. Ah bon,
alors,
ah
oui, on va savoir. Alors, pourquoi?
Ah oui, moi j'attendais le top 5.
Le numéro 1, c'est la Norvège. C'est toujours les mêmes, Suisse.
J'aime bien ce mépris pour les pays du Nord. Et la Suisse, Axel, évidemment.
Oui, les Scandinaves, je ne sais pas, ils sont numéro 1 dans tous les classements. Bon, bref. Je reviens. Pourquoi nous sommes 25e? Je vous ai dit, il y a trois critères dans le développement humain. Numéro 1, c'est la santé. Dans la santé, ils regardent l'âge. Alors là, pour le coup, nous, en France, on a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Donc, ce n'est pas ça qui pêche. En revanche, revenu par habitant, bah oui.
La France, c'est pas un pays très riche. Et nous, tous ces pays que je vous ai cités avant sont bien plus fortunés que nous. Et le troisième critère, je vous ai dit que c'était l'éducation. Bah oui, la France n'est pas un pays fantastique pour l'éducation. Vous avez énormément de décrocheurs. Et c'est un pays très inégalitaire en matière d'éducation.
Inégalitaire, plus inégalitaire que les États-Unis où il faut avoir je sais pas combien de blé pour pouvoir envoyer ses enfants à l'université.
C'est un mix des trois.
Voilà, c'est ça.
Et quand sur trois critères, vous en avez deux qui sont pas bons. Eh ben à la fin, vous êtes mal classé.
Mais États-Unis, que ça veut dire le système de santé est catastrophique, donc ça, c'est
Il est inégalitaire. Bon, bah, on va aller voir l'ONU, là, l'ONU, on va leur dire, dites donc, c'est quoi votre classement ? C'est quoi votre classement ? On est 25e. Non, mais...
Il est fou.
Le thermomètre, on prend pas l'autre.
Ce que je trouve intéressant dans l'élaboration de cet indice, c'est qu'il montre que le bonheur, ça n'est pas l'oisiveté. Vous voyez, le bonheur, c'est quoi ? C'est être en bonne santé, c'est aller à l'école et aller au travail. Eh bien, vous voyez, alors nous, on est en bonne santé, mais on ne va peut-être pas assez à l'école et on ne va peut-être pas assez au travail. Et voilà comment une chronique sur le monde d'après et sur le bonheur se termine en une ode sur le productiviste. Allô ?
Il est retombé sur ses pattes capitalistes.
Exactement. Une chronique. Merci, patron. Embauchez-nous, patron.
Le mec nous a emmené au bout de temps, il nous a fait rêver avec le bonheur.
Et je reviens au MEDEF.
Et il revient au MEDEF. C'est vraiment un tour de passe.
Il est lucide.
Un passe-passe exceptionnel. Merci, Axel. Un dernier mot pour finir sur une note purieuse.
Elle danse.
Diga, diga, dame à vous, Axel.
Europe 1.
Souvent, je me suis moqué d'elle pour ses réponses farfelues dans le quiz. Je l'ai taquinée, gourmandée, parfois réprimandée. Souvent, elle aurait eu envie de me rétorquer un truc mémorable, une répartie qui m'aurait laissé sans voix comme...
Le train de tes injures roule sur le rail, c'est de mon indifférence.
Et là, ça n'a jamais trouvé mieux à me rétorquer que...
Tu n'es vraiment pas très sympa.
Le meilleur du quiz qui opposait Eva Rock à l'invité, c'est toujours croustillant. Et c'est dans un instant.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Tout au long de l'émission, aujourd'hui, nous rendons hommage à Michel Hazanavicius, qui était notre invité et qui a légué à la postérité ce long métrage clandestin culte intitulé La classe américaine et qui détourne les scènes des classiques du cinéma. Parmi ces scènes, l'une me semble illustrer à merveille la séquence du quiz de Culture G qui suit. Un quiz redoutable, comme celui qui oppose John Wayne à Clark Gable vers la moitié du film.
En puissance intellectuelle, on va voir ce que tu vaux.
Mais avec plaisir.
C'est une devinette. Qu'est-ce qu'à trois bras ? Un seul chapeau, deux chemises et une veste, un foulard, un pistolet et quatre oreilles.
C'est le cow-boy de Tchernobyl.
Bravo, il la connaissait.
C'est ça la puissance intellectuelle.
La puissance intellectuelle pure. C'est ce qui nous attendait chaque jour grâce à Eva Rock au moment du quiz.
Oh,
on s'en fait une petite fournée, Eva.
Allez, allons-y.
Bilal Hassani, votre pouls s'accélère, des frissons d'angoisse parcourent votre corps et c'est normal, vous allez affronter Eva Rock dans un combat singulier et intellectuel. Or, quand on connaît la puissance neuronale d'Eva, pour rappel...
Et 22 mois, ça ferait...
Arrêtez avec
3
ça.
Ans. 3 ans, il y a 3 balisés. Hein. Alors chaque jour...
Je suis nul en chiffres.
Ah oui, non, mais, oui, mais comme ça, vous êtes deux.
Bah voilà.
À chaque jour, un thème en rapport avec l'invité, pour vous Bilal, qui justement agaçait ceux qui ont du mal à comprendre qu'on puisse être ni homme, ni femme, ni queer et réciproquement, on a décidé de vous faire un quiz sur le thème homme-femme. Vous êtes opposé à une femme qui aime les hommes, qui aime les femmes. Eva Rock. Une bonne réponse, un point. Arithmétiquement, vous suivez, Eva?
Oui, là, ça va.
Très bien. Alors, ouais. C'est parti. On commence avec vous, Bilal Hassani. Le record du monde de lancer de disque est plus important dans la catégorie femme que homme. Vrai ou faux?
Je vais dire vrai parce que j'aime les femmes. Et bien, c'est toujours les meilleures.
Et vous avez raison. Le record masculin est de 74 mètres. Le record féminin, de 76 mètres. Alors, même si le disque pour les femmes fait 1 kg
et, voilà,
et 2 kg pour les hommes, c'est la seule discipline où c'est le cas, où les femmes sont plus fortes que les hommes sur le même exercice. Eva Rock, les ouragans qui ont un prénom féminin sont en moyenne 3 fois plus meurtriers que ceux portant un prénom masculin. Vrai ou faux?
Non, c'est faux, parce que... Non, c'est faux.
J'aime quand vous répondez vite, quand vous avez comme ça une certitude.
Non, c'est faux.
Oui, c'est faux. Eh bien, c'est vrai. Eh oui, et il y a une explication, Eva. Il y a une explication. Non, non, ne soyez jamais sûr de vous. Les populations se méfient moins quand ce sont des prénoms féminins en associant la féminité à la douceur. Résultat, de 1950 à 2012, on compte en moyenne 15 morts pour un ouragan au prénom d'homme, 41 pour ceux au prénom de femme. Et voilà.
Il va y en avoir deux morts supplémentaires, vous allez voir.
Mais calmez-vous. Mais ce n'est qu'un jeu, Eva. Ce n'est qu'un jeu. Elle me déteste de plus en plus viscéralement, j'ai l'impression. Attention, vous jouez tous les deux, les amis. C'est une maladie très rare et elle touche certaines femmes. Quel est le symptôme? 3 propositions. 1. Une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes. 2. Une allergie épidermique qui ne concerne que les femmes avec les poils du torse des hommes. Elle ne supporte pas ça. Ou 3, une défaillance du cerveau qui fait que les femmes arrivent à faire un créneau.
Ah,
oh, qui m'a mis cette question?
C'est moche.
Alors là, je me désolidarise de la personne qui a écrit ce quiz. D'après vous,
Vous diriez quoi, vous, Bilal?
Moi, je dirais deux. Le truc
d'allergie,
des poils.
Une allergie aux
poils
de torse.
Et le premier, c'était
une surdité qui fait que les femmes ne peuvent plus entendre les hommes.
J'aimerais trop que ce soit ça. Je vais dire la 1.
Vous dites la 1 au hasard? Parfois, le hasard vous porte chance. Et bien, effectivement, c'est la 1. C'est une surdité en pente inversée, à savoir une perte auditive sur les fréquences les plus graves. On estime à 466 millions le nombre de femmes qui ne peuvent pas entendre les hommes.
Vous comprenez
mieux. Béni soit-elle. Eva Rock, quand il y a des soldes, elles sont exceptionnelles.
Oui.
E2LES ou exceptionnel ELS.
Ah merde. Enfin merde, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais.
Restez poli.
Je dirais féminin, donc 2LES, mais j'ai un gros doute.
C'est
en fait.
Un doute c'est justifié puisque c'est faux. Exceptionnel ELS, le mot est masculin, souvent utilisé au pluriel. Une solde, c'est quoi? C'est le salaire du soldat.
Oui,
ça n'a rien
exact,
à voir. Bilal Hassani, attention, cette question va vous départager. Le poisson, la murène à longue queue, est femelle de 5 à 12 ans, puis devient mâle jusqu'à la fin de sa vie à 40 ans. Vrai
oui, c'est vrai.
C'est vrai, il le sait. Et non, c'est faux, c'était un piège.
Ah
c'est
bon
dégueulasse, c'est honteux. Faux, c'est vrai pour le mérou. Il est capable de se reproduire vers 3-5 ans. Il devient mâle généralement vers 9-12 ans.
Non, elle est pourrie, votre question.
Attention, réclamation déposée. On donne le point quand même à Bilal qui remporte
c'est
le
génial,
quiz.
Quand t'es invité, tu gagnes quand même.
C'est toujours bien. Ça, c'est bien fait cette émission.
Europe 1.
C'est la question lancinante qui revient en boucle en ce moment pour tous ceux d'entre vous dont les enfants n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école et qui sont donc encore et toujours dans vos pattes à longueur de journée. Pourquoi n'ai-je pas utilisé plus de préservatifs? Une question que se posent tous ceux qui tentent de télétravailler encerclés par des mioches hurleurs, comme Arthur Mbaché, notre correspondant à Strasbourg.
Bon, mes gamins sont survoltés, hein, je m'excuse d'avance.
Tu veux dire qu'on va les entendre? Rappelle-nous les âges.
1, 3, 5, 7.
Oh là là. 4 enfants?
J'adore faire l'amour.
C'est noté. Mais maintenant, il faut bien que quelqu'un gère les gosses. Et si c'était la télé? Eva Rock vous explique comment occuper intelligemment vos enfants et vos ados via les écrans. Arthur Mbaché, notre correspondant dans l'Est et père de 4 enfants, nous avouait jeudi dernier ce que nous sommes beaucoup à ressentir, mais peu à oser l'exprimer.
J'ai beaucoup de facilité à détester les enfants des autres.
C'est assez juste, sauf que ça c'était avant le confinement. Car depuis, phénomène nouveau, de plus en plus de parents ont une facilité à détester leurs propres enfants. Pour lutter contre ce phénomène, Eva Rock vous propose chaque jour un programme pour les occuper pendant que vous télétravaillez.
Exactement, et alors en ce lundi, une formidable série d'animation et une série pour les ados. On va commencer avec cette série pour les ados. C'est une série italienne, Mathieu, en l'occurrence, qui est à découvrir sur Netflix, qui est intitulée 3 mètres au-dessus du ciel. On ne pourra pas dire que la distanciation n'est pas respectée d'ailleurs. Alors, extrait de la bande-annonce et vous allez tout de suite comprendre quel est le principal sujet.
C'est pas ce que t'écris qui compte, d'accord? C'est les émoticônes qui sont importants.
Elle a répondu avec un singe.
C'est super bon signe, le singe.
Depuis que t'es avec cette fille, t'en as plus rien à foutre de rien.
Si tu savais comme je me sens bête.
T'es loin d'être bête. T'es juste amoureuse.
Vous avez compris quel est le thème du principal?
Ce que j'ai compris surtout, c'est qu'une série en italien, vous me la regardez en italien quand même, sinon on perd une partie de la saveur.
Ah oui, il faut la regarder en italien. Non, mais là c'était pour évidemment pour que vous compreniez un peu les dialogues.
Il s'agit d'amour,
évidemment. Alors le tout dans un décor paradisiaque avec de grandes plages de sable où Summer, c'est l'héroïne, rencontre Ale. Alors elle est issue d'un milieu très modeste, lui d'un milieu très bourgeois. Elle, c'est une élève brillante pendant que lui a arrêté l'école pour se consacrer aux courses moto. Vous attendez pas à des rebondissements. On est vraiment dans la série plutôt bleuette, adapté d'un best-seller en Italie qui avait déjà eu droit d'ailleurs à une version adaptée au cinéma. L'image, elle est très belle, la bande-son est soignée, mais c'est pas la série du siècle. Hein. Mais je me suis juste dit, c'est pour ça que je vous en parle, que si j'avais été ado aujourd'hui, je crois que j'aurais un peu, j'ai bien dit un peu, hein, rêvé
Vous sortez à peine de l'adolescence.
Voilà, mais j'aurais rêvé devant ces personnages amoureux, j'aurais voulu être Summer, par exemple, sur ces plages italiennes. 3 mètres au-dessus du ciel, c'est pour les ados et c'est à voir sur Netflix.
Et quelle est la série d'animation dont vous nous parliez tout à l'heure?
Ah là là, Canal Plus propose ce soir en clair à 21h, la saison 2 des Cahiers d'Esther, l'adaptation de l'œuvre de Riyad Satouf, qui est à l'origine de cette version animée également. Il était l'invité de Philippe Vandel ce matin. Si vous ne savez pas qui est Esther, petit aperçu.
Je m'appelle Esther et j'ai 9 ans. J'habite à Paris dans le 17e arrondissement. Dans ma famille, on est vraiment heureux. On n'a pas de problème. Franchement, on s'entend tous assez bien.
Maman, j'entends encore la musique de merde d'Esther à travers son casque. Tu peux lui dire de baisser là?
Doucement. Je suis en CM1 dans une école privée. Ça veut dire payante. Mon père dit qu'à mon âge, c'est mieux par rapport à la violence des garçons. Ils sont tellement cons. Mais un legging qu'on voit ton cul, espèce de démodé. Le métier que je rêve de faire plus tard, c'est chanteuse. Chanteuse célèbre, comme Chaïm par exemple. C'est une brune à la voix d'ange. dirait que tes jambes, elles sont détachées. La pure souplesse, ça, mais... Ouais, bien.
Alors, Esther, elle existe et elle grandit sous l'œil du dessinateur Riyad Satouf. Il avait débuté le récit de ses aventures dans l'Obs avant d'en faire des albums et cette série d'animation. Donc, dans cette saison 2, Esther, elle a bientôt 11 ans. Alors, elle pense évidemment au collège, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, elle est toujours en CM2. Elle continue de nous raconter sa vie d'écolière et sa vie à la maison, avec son père qu'elle adule, son frère qu'elle déteste. C'est une petite fille qui écoute Louane, Balavoine et Miles Davis. Donc, autant vous dire, le bonheur parfait. Je veux bien l'adopter, cet enfant. Je suis très fan de ce personnage et de cette série.
Elle
Esther,
écoute Chaim aussi, visiblement.
De quoi ? Oui, elle écoute Chaim aussi.
Oui,
elle adore Chaim, évidemment. Esther, elle nous embarque dans son monde, se moque des adultes et porte un regard critique sur la société. Et dans quelques jours, le tome 5 sortira en librairie. Il est intitulé L'histoire de mes 14 ans. Je dois avouer avoir hâte de découvrir vraiment Esther adolescente. Quant à cette saison 2, elle compte 52 épisodes de 3 minutes. C'est diffusé tous les jours. Vous le retrouvez sur mycanal.fr. Vos enfants vont adorer, vous aussi. Je me demande même si les grands ne sont pas plus sensibles à ces cahiers d'Esther que les petits.
Bah, c'est tellement finement écrit.
Ah, c'est très, très bien écrit.
Ce qui est souvent faux quand les adultes écrivent des paroles d'enfants.
C'est formidable. C'est formidable.
Là, c'est très,
même
très
l'usage des gros mots, vous verrez, l'usage des gros mots est très pertinent. Quoi. Mais vraiment, c'est un petit chef-d'œuvre d'animation.
Un petit chef-d'œuvre comme votre chronique, Eva.
Voilà.
Merci. Europe 1. Se dégourdir les zygomatiques sans pour autant mettre en veille nos cervelles. Voilà l'ambition de l'équipée sauvage, une grande battle des journalistes. Une deuxième manche se profile, de nouveaux concurrents vont nous rejoindre au programme littérature, écologie, gastronomie et scoop de stars. Puisqu'ici, chaque jour, je découvre à quel point ma complice Eva Rock est introduite dans le milieu du show business. Alors attendez, vous connaissez Casimir personnellement ?
Mais clairement, j'ai déjà fait des soirées avec lui.
Vous avez fait des soirées, Casimir ?
C'est formidable. Non, mais en plus, je déconne pas, c'est vrai. Ouais, ouais.
C'est fou de se dire,
mais
je connais quelqu'un qui connaît Casimir.
Ah bah attendez.
Ah mais je n'en reviens
pas. Vous ne pourriez pas le dire tous les jours, hein ?
Mais moi, je ne peux pas le dire personnellement, en tout cas, mais je dis que je vous connais.
Voilà,
je connais Eva Rock,
voilà.
Qui connaît Casimir.
Je peux vous le présenter, si vous voulez.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous divertir tout en boostant votre culture G. Vous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure sans jamais oublier d'en rire grâce aux explications de nos experts à qui j'ai demandé de vulgariser et qui parfois, comme Axel, notre spécialiste éco, en font un peu trop car on n'a pas non plus 6 ans.
Le porte-monnaie est bien garni, nous avons mis de côté des noisettes pour dépenser à l'heure du déconfinement.
Une deuxième manche arrive les enfants avec un tour d'horizon des best-sellers car c'est la saison et un nouveau site qui vous permet de vous situer dans la population mondiale de manière statistique, savoir jusqu'à quel âge vous allez vivre en fonction du pays où vous résidez, combien de personnes fêtent votre anniversaire le même jour que vous, gagnez-vous plus que votre voisin ou pas ? Non, ça je sais pas, on verra si c'est possible ou pas. Bref, une nouvelle ribambelle de sujets passionnants dont je ne vais pas manquer une miette. De toute façon, les sujets traités dans l'équipée sauvage sont si passionnants qu'il est impossible de décrocher. La preuve, moi, mercredi dernier.
Garé, placé, en écoutant le son sur l'autoradio, puisqu'une fréquence a été réservée à cet effet.
Ce soir, par exemple, c'est Whiplash.
Mais une question, Stéphane, le son, il vient d'où ? Parce que s'il vient de l'écran,
mais
on n'entend pas
très
bien.
Mais le monsieur, il vous l'a expliqué, là.
Ah merde, j'ai pas écouté le son. C'est... Ah oui, Stéphane, enchaînez.
Bravo.
Oui, bon, je décroche presque jamais.
Ouais.
Tout est dans le presque. Oh, ça, je l'entends à tous les coups. C'est la petite sonnette qui nous indique qu'il est 17h sur Europe 1. Lundi 25 mai 2020, un lundi éprouvant pour beaucoup d'entre vous qui se remettent péniblement d'un week-end de 4 jours où vous étiez excités de retrouver vos amis, comme ma fidèle Eva. La phrase que vous avez le plus prononcée ce week-end, c'est...
Vous voulez un petit apéro ?
Le retour au travail a dû être coton ce matin. Heureusement, il est déjà 17h passé, une heure où il n'est pas tout à fait incongru de commencer à s'interroger.
Vous voulez un petit apéro ?
Oh, quelle meilleure rampe de lancement vers l'apéro que l'équipe est sauvage. Une compétition journalistique sanglante pour nos chroniqueurs, mais éminemment joviale et ludique pour vous, puisque vous votez via Twitter pour votre journaliste préféré. Présentons d'ailleurs Eva nos deux ultimes concurrents du jour. Le premier est plus qu'un collègue, un ami. Enfin, jusqu'à ce que je commette cette affreuse bourde mardi dernier en voulant pourtant faire la pub de son émission. Et en écoutant votre émission du samedi. Hein.
Oui, merci, c'est le dimanche.
Ah,
c'était le samedi avant.
Mais c'est pour ça, Nicolas. C'est, je vous écoute depuis tellement longtemps que c'est passé du samedi au dimanche. Vous savez, on est perdu.
C'est pour ça.
Bonjour, Nicolas Caro.
Bonjour. Non, mais la première fois, c'est pas grave. Mais ça fait trois fois que vous dites le samedi à la place du dimanche.
C'est déjà beaucoup trop, mais c'était la deuxième fois que je me suis encore emmêlé les pinceaux. Je vous écoute en podcast, quoi.
Allez, ça ira.
Vous êtes l'expert littérature d'Europe 1. Avec quel sujet fort allez-vous écraser la concurrence aujourd'hui, Nicolas ?
Mais on est en pleine saison des best-sellers. Là, il y a les Dicker, les Musso, les Minier qui sortent. et je me suis posé la question, mais au fait, c'est quoi un best-seller? À partir de combien de ventes on parle d'un best-seller? Ça consiste en quoi un best-seller? Est-ce qu'il y a une recette? Je vous explique tout ça.
Ah bah si vous avez la recette, donnez-la moi, mais hors antenne. Votre rival du jour, Nicolas, habite ici les Moulineaux.
Oh mon Dieu.
Oh, je vous en prie Nicolas, hein, cessez avec ce parisianisme. C'est très sympa ici les Moulineaux, très fleuri.
Ça m'énerve.
Quelle est la spécificité des habitants d'ici les Moulineaux?
Ils se font chier.
Non Nicolas, non. On dit qu'ils ont du temps libre et ça leur permet de s'intéresser à l'écologie et de faire leur propre compost. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On est heureux ici.
Ici les Moules, comme on dit.
Je suis passé par ici les Moules hier, tiens. Ouais. Je suis allé en forêt de Meudon, je l'annonce, très bel endroit pour se ressourcer pendant ce déconfinement. Oui. Et je suis passé par ici les Moulineaux, fort jolie bourgade. Anne, vous êtes l'expert environnement d'Europe 1. Et cet après-midi, vous me proposez, pour fêter la fin du confinement, et de nous reconnecter aux autres. Mais de quelle manière, Anne?
Voilà, on a apprécié le cocooning pendant le confinement. Notre horizon s'est un petit peu rétréci. Alors moi, je vous propose de nous reconnecter au reste du monde en allant faire un tour sur un site de données démographiques mondiales. Alors dit comme ça, c'est pas très sexy, mais je vous promets que c'est un petit peu comme les montagnes russes. Ça permet de voir quelle est notre place dans le monde et c'est vertigineux.
C'est vertigineux, c'est vertigineux. Je n'ai pas de suite parce que je voulais faire
qu'est-ce que vous vouliez dire
pas dit là. Non, je peux pas le dire. C'est si vertigineux qu'on va essayer de ne pas tomber, me soufflait à l'instant Nicolas Carreau. Décidément, pas expert littéraire pour rien. Merci beaucoup. Mais pour l'instant, avant de rentrer dans le vif de la compétition, c'est l'heure du mix, Eva.
Mais oui, avec Sébastien Bordenave, tous les jours, on scrute les réseaux sociaux pour y dénicher des moments cocasses, décalés, intéressants. Alors, au menu du jour, écoutez bien, le moine bouddhiste français Mathieu Ricard, qui était notre invité mardi dernier, y participe hier à une conversation vidéo à 4 sur le déconfinement. Vous allez entendre ce qu'il en pense. Grâce à Louis Chédid qui a posté cette vidéo sur son Facebook, vous allez découvrir un artiste appelé Rod P qui vient de réaliser une très belle reprise de Tabo, pas être beau. Notre ami Bertrand Huscla de Brout qui campe un chef informatique qui nous aide à télétravailler. Et puis on commence tout de suite avec Tété. Il a réussi à recueillir 70% des financements nécessaires pour son album de reprise enregistré avec des anonymes qui étaient confinés. Il reste 30% à recueillir de financement. Allez-y, vous pouvez investir. Et il reprend un tube de Dépêche Mode que vous allez reconnaître tout de suite. Your own personal Jesus.
Someone who hear your prayer. J'étais dans un endroit très magnifique et sauvage de l'Islande. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis là? Je me disais, c'est l'émerveillement. Je me suis dit, l'émerveillement, ça agrandit notre esprit. Ça dissout notre ego. Et devant cette immensité, l'ego, il est maintenant, on voit plus très bien où il est. Ça induit aussi un respect. Parce que ce qui vous émerveille, on ne va pas le saccager, bien sûr, on va le protéger. Et donc le concept, souvent, on parle de Dalai Lama, de non-violence vis-à-vis des êtres humains, non-violence vis-à-vis des autres espèces, des animaux, et non-violence vis-à-vis de l'environnement. Et je crois qu'avec ça, on est bon. Il y a des colorants pas marrants, passent dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes.
Je suis le chef du service informatique.
Là, c'est ma salle de commande, donc je peux voir en direct tous les salariés qui sont connectés, et puis je reste là à rien faire.
Allô, Cécile, t'as fait un malaise? Ah non, mais en fait, comme je voyais que t'étais inactive, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas un problème. Ah, tu prenais juste un café? Eh ben, prends-en un cours la prochaine fois, parce que sinon le logiciel, il aime pas.
Du tube de Louis Chédid que vous entendez, elle est réalisée par une seule personne.
Ah oui,
oui.
C'est le multipiste, Eva.
Exactement.
Eva Rock découvre le multipiste.
Bon, attendez, vous n'aviez pas compris, vous pensez que c'était une chorale.
Bah, j'ai pas compris, mais je sais que c'est possible. Aujourd'hui, on peut faire des choses formidables avec les logiciels. Ouais. Après ces longs mois de solitude, vous avez hâte, les amis, de reconnecter avec vos semblables, mais vous avez aussi envie de savoir si vous vivrez plus longtemps qu'eux. Des statistiques étonnantes vous attendent dans les toutes prochaines minutes. Europe 1. À suivre justement, combien de personnes fêtent leur anniversaire le même jour que moi? Quel âge suis-je susceptible de vivre en moyenne en fonction du pays où je suis né? Les chiffres étonnants de notre expert environnement, la discrète et pudique Anne Le Gall, une femme toujours classe, même lorsque ses enfants lui demandent « Maman, c'est quoi une partouze ?» Elle réussit à garder son calme et à trouver une image poétique pour présenter la chose élégamment.
Je vous rappelle, c'est la fécondation du pistil des fleurs par du pollen qui vient généralement d'autres fleurs.
Oh, c'est bien dit, sacré Anne Le Gall, à tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Ils se mettent joyeusement sur la gueule chaque après-midi au service de votre bonne humeur et de votre culture G. Parmi les journalistes d'Europe 1 avec nous aujourd'hui, le lettré de la bande Nicolas Caro et notre expert environnement, la pétillante Anne Le Gall, qui pétille car elle habite ici les Moulineaux, banlieue où la verdure lui a permis de garder le moral et le sourire par rapport aux Parisiens qu'elle redécouvre avec un certain effarement, pas vrai Anne?
Ils sont tout blancs, tout gris, tout moches, ils sont poilus en plus.
Oui, c'est vrai que le confinement ne nous a pas fait du bien. Et justement Anne, vous nous proposez aujourd'hui de reconnecter avec nos semblables. Mais comment?
Mais comment? Par une expérience vertigineuse, je vous propose d'aller faire un tour sur un site de données démographiques mondiales, non pas parce que vous vous ennuyez devant votre ordinateur, mais parce que vous êtes, je le sais, ouvert d'esprit, que vous êtes citoyen du monde.
Oula.
Alors c'est parti pour cette expérience au milieu des données mondiales. Vous tapez population au singulier .io dans votre barre de recherche et vous tombez pour commencer sur un compteur qui vous estime en temps réel combien nous sommes sur Terre. Donc
nous sommes actuellement,
on le voit avec le compteur, plus de 7 750 300 000 habitants. Alors il y a 3 naissances toutes les secondes, donc il y a à peu près 200 bébés qui sont nés depuis le début de cette chronique.
Oh.
Ensuite, et là c'est une expérience qui peut donner le vertige, le site vous propose d'entrer votre date de naissance, le nom du pays dans lequel vous vivez, et à partir de là, il calcule toute une série d'infos sur votre place dans le monde. Donc j'ai appris que je devais vivre normalement jusqu'au 30 novembre 2064.
Ah, c'est horrible.
C'est,
7
c'est pas mal.
Ans d'espérance de vie. Donc c'est pareil pour vous Eva à peu près.
Hein. Ah bon, ouais, merci.
C'est 7 ans d'espérance de plus que la moyenne mondiale parce qu'on a la chance de vivre en France. Et pour vous Mathieu, ben a priori, ouais, c'est une bonne nouvelle, vous devriez fêter le réveillon du passage à l'année 2070.
Mais dans quel état, c'est la question qui se pose.
Alors dans quel état, sans doute mieux que moi, parce que vous faites partie Mathieu de la moitié de la population française la plus jeune. Contrairement à moi, puisque j'ai découvert que j'étais plus vieille que 55% des Français et que 71% des habitants de la planète. Ça met une petite claque.
Mmh. Ouais.
Et j'ai découvert aussi que 10 977 personnes dans le monde sont nées le même jour, à la même heure que moi.
Le
téléphone portable créé en 83 est né avant 45% de la population française. Bref, en bougeant les curseurs, on peut voyager comme ça dans le temps, dans l'espace. Et c'est assez bluffant.
Alors moi, ça m'amuse follement. J'adore ces statistiques, mais ça sert à quoi concrètement?
Alors ça sert à rendre concrètes des données très officielles de l'ONU qui ne nous disent rien évidemment quand elles sont dans des tableaux. Mmh. Mais comme ce site les replace et nous replace au milieu de tout ça, franchement ça nous redonne la conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'on sera 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2049, alors que le premier milliard d'êtres humains sur Terre n'a été atteint qu'en 1800. Donc la population de la planète a déjà été multipliée par 7 en 2 siècles. Nous sommes à la fois de plus en plus nombreux à vivre mieux, plus vieux, mieux éduqués, en bonne santé. Et en même temps, les écarts entre les riches et les pauvres se creusent. Il y a une pression sur les ressources. Bref, le site permet de réaliser que l'avenir est un immense chantier collectif puisqu'on vit sur une planète finie et qu'on doit cohabiter, quoi qu'il arrive. Donc c'est une invitation à ne pas trop se regarder le nombril, mais à garder l'esprit ouvert, ouvert tout simplement.
Merci beaucoup Johnny pour nous faire plaisir.
Mais, pourquoi voilà.
Parce qu'on est tous ensemble, il faut jouer collectif. Petit souvenir de la Coupe du Monde 2002, Mathieu, c'est pour vous détendre après les chiffres.
Ça risque pas de me détendre, vous savez ce qu'on a fait en 2002 à la Coupe du Monde et vous savez pourquoi cette chanson est devenue un tube, à l'inverse, un anti-tube culte,
parce qu'on
s'est fait éliminer comme des cons en 2002.
Ah, mais
c'était une catastrophe.
Ça fait toujours sourire.
Ah oui, c'est sûr. Merci beaucoup Anne Le Gall pour tous ces chiffres. Eva, un dernier mot.
Sacha Distel.
Merci.
Europe 1.
Je l'aime beaucoup.
Certains lui reprochent d'avoir un esprit encore plus mal tourné que le mien. C'est vrai qu'elle a une fâcheuse tendance à démarrer au quart de tour à la moindre tournure de phrase suspecte.
Vrai.
Oui, mais bon, oui, faut que je me fasse tirer la fibre, comme ça je peux.
Tu m'as fait peur.
Reconnaissez que cette phrase, excuse-moi, c'est une expression très courante aujourd'hui quand on veut avoir un internet de qualité.
Ouais.
On lui pardonne car rares sont les journalistes médias à scruter avec autant d'attention ce qui se passe sur nos écrans. La sélection télé des Varocs à suivre.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Ce soir, offrez-vous une soirée détente devant un bon film ou une bonne série, surtout si comme Eva, vous avez dépassé les bornes ce week-end essayant à tout prix de rattraper 2 mois coupés du monde et que du coup, vous avez un peu trop fait la fête. Eva, par exemple, ne se souvient pas de tout, mais visiblement, c'est allé assez loin puisqu'à un moment, une de ses copines s'est exclamée
« Faut appeler la police !»
Non, 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 on n'appelle pas la police, on nettoie tout et ensuite on appelle la police.
Faut virer toute la drogue.
On a dit virer, pas sniffer.
Oublions ces péripéties du week-end
en
nous affalant sur nos canapés. Mais devant quoi, Eva?
Eh bien, bien, au menu de ces 17 minutes de gagner, une comédie et une série vaguement stressante. On va commencer par la comédie. C'est ce soir sur TF1 à 21h05 avec un duo, Franck Dubosc et Cadmirade, pour une comédie qui est signée Dominique Farrugia et ça s'appelle Bis. Moi, je ne l'avais pas vue cette comédie et là, je l'ai regardée pour la chronique. Alors écoutez, les deux comédiens jouent deux quinquas amis depuis des années. Cadmirade, il est gynécologue, il est père de famille.
C'est bon, je prends.
Voilà, alors attendez.
Cadmirade,
voilà,
est gynécologue.
Vie très pépère, hein. Il est marié voilà, avec une enfant. Et Franck Dubosc, lui, il pense plutôt à ses conquêtes féminines. Les deux copains passent une soirée ensemble, ils refont le monde en vidant quelques bouteilles. Ils finissent par tomber dans l'escalier et une chute qui les propulse en 1996.
Ah oui.
Ils sont donc adultes dans leur tête, mais ados dans leur corps. Et donc, ces petits malins, ils se disent, on va essayer de changer le cours de nos vies pour avoir des vies quand même plus agréables. Et donc, par exemple, ils vont essayer d'aller vendre des scénarios à la maison de production de Claude Berry, des scénaris, on dit plutôt, des scénaris de films qui, en l'occurrence, ont ensuite été évidemment
des
grosses... Oui, on peut dire
les deux.
Des films qui ont été évidemment des gros succès comme Les Visiteurs, Les Intouchables ou encore ce film.
Première idée de scénario, c'est un gars qui travaille à la Poste dans le sud. Et il va se faire passer pour un handicapé pour avoir un poste plus avantageux, sauf que...
Les déménateurs se rendent compte de la supercherie, voilà. Forcément.
Et pour le punir, on va le muter dans le nord de la France.
Là où il fait froid.
Là où il fait froid. Évidemment, il ne veut pas aller dans le nord. Il pense que dans le nord, il pleut tout le temps. D'ailleurs, ça peut donner des scènes très cocasses. Ouais. Par exemple, il part en voiture, il franchit le panneau « Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais » et là, rax,
direct.
Une pluie battante qui vient...
juste après le panneau.
Et là, il va rencontrer... un gars du Nord.
Un personnage loufoque.
Un personnage très loufoque qui parle. Il ne comprend pas au début ce qu'il dit, puisqu'il a... Vous savez, dans le Nord, ils ont un accent. Ils disent les cheux à la place des queues. Alors, ça, ils sont souvent...
Alors,
c'est génial.
Si le thème du film, c'est pas le plus original du monde, on est d'accord.
Non,
il y a quand même des scènes hilarantes comme celles qu'on vient d'entendre. Le duo Cadmirade-Franck Dubosc mais fonctionne à merveille. C'est bourré de références. Alors, juste un petit exemple. Au bout d'un moment, ils rentrent dans une discothèque qui est baptisée La Main Jaune. Et c'est la boîte où se rendait Sophie Marceau dans La Boom. Et d'ailleurs, si vous tendez l'oreille, vous entendrez la chanson de Richard Sanderson dans le film de Dominique Farrugia. C'est vraiment le film à regarder en famille. C'est une comédie qui est drôle et à la fois mélancolique, notamment sur la fin
surprise,
du film.
Ça, alors,
très, très bonne surprise, exactement.
Bon, j'irai vérifier vos dires.
Oui.
J'irai vérifier ça. Et pour ceux qui ont du temps devant eux et qui veulent regarder une série.
Eh bien, on part sur Amazon Prime Video pour découvrir la saison 2 de Homecoming, qui est une série produite par Julia Roberts, qui était l'héroïne d'ailleurs principale de la première saison. Alors, avertissement, n'essayez pas de regarder la saison 2 si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, vous n'allez rien comprendre. Donc, je vais essayer de résumer. Homecoming, c'est le nom qui est donné à un programme destiné à traiter des soldats américains de retour de la guerre, favoriser en fait leur réinsertion à la vie sociale avec des protocoles médicamenteux un peu étranges. Et un des soldats, Walter Cruz, va d'ailleurs perdre une grande partie de sa mémoire au cours de ce traitement. La saison 2, elle débute dans une forêt. Une femme est allongée dans une barque. Elle parvient à rejoindre la rive. Elle tente de trouver de l'aide. Or, écoutez...
Everything all right, miss?
What's your name?
I don't know.
What is your address?
I don't know.
How about your birthday?
I don't know.
Et oui, elle aussi, elle ne se souvient plus de rien, ni comment elle s'appelle, ni sa date de naissance, ni son adresse. Elle va partir à la recherche de son identité et elle va croiser le chemin du fameux Walter Cruz. C'est un excellent thriller qui brille par sa réalisation. Je l'avais trouvée d'ailleurs bluffante lors de la première saison. Elle est tout autant dans cette deuxième. Il y a un jeu de flashback où chaque détail en fait, dans le décor va prendre de l'importance dans la suite de l'intrigue. C'est vraiment un pulse diabolique qui est servi par un scénario redoutable d'efficacité. Quant aux acteurs, eh ben, ils sont tout simplement parfaits. Et puis, il y a le fond aussi. Est-ce que perdre une partie de la mémoire nous change un très simple Est-ce que nous avons la possibilité de devenir de meilleures personnes quand on perd un bout de sa mémoire? C'est une série qui est assez courte, 7 épisodes de 30 minutes, c'est adapté d'un podcast et d'ailleurs la bande-son est absolument remarquable. Vous entendrez d'ailleurs cette reprise de My Way. Voilà, rien pour ça, vous pouvez regarder et écouter Homecoming, c'est sur Amazon Prime Video.
Ouais. On écoute encore un peu Nina Simone. Même si on est très en retard avec mon réalisateur, me fait des grands gestes. Mais alors, Romain, tu n'aimes pas Nina Simone? Tu n'aimes pas Nina Simone, c'est ça. On dit qu'on dit ça à la France entière. Bravo. Assume.
Europe 1.
Ce n'est pas encore la pleine saison des tomates, ni celle des fraises, mais c'est en revanche la pleine saison des best-sellers. Jeudi, nous serons d'ailleurs avec Joël Dicker, dont le nouveau roman s'annonce d'autant plus formidable qu'il se passe en Suisse. En attendant, Nicolas Carreau, notre expert littéraire, nous explique à quoi ça tient, un best-seller. Ami auteur...
Et on va s'intéresser aux mécanismes de votre écriture, on va mettre les mains dedans.
Alors si vous êtes prêts à mettre les mains dedans avec nous, on se retrouve après une chanson hommage à Jean-Loup Dabadie, l'immense Jean-Loup Dabadie qui nous a quittés. C'est Julien Clerc, une des nombreuses chansons qu'il a écrites. On sait qu'il a écrit pour les plus grands, ma préférence sur Europe 1.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
Ma préférence. référence était Julien Clerc, écrit par Jean-Loup Dabadie, qui nous a quitté. Jean-Loup Dabadie, à qui on doit les dialogues.
Non, mais ça trompe énormément, entre
autres. Nous irons tous au paradis, évidemment.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Thomas Piketty nous avait prévenu dans son livre de référence Le Capital au XXIe siècle, ce qui menace le fondement de nos sociétés modernes, c'est la montée des inégalités. Des inégalités parfois criantes, surtout au sein de la rédaction d'Europe 1, où certains journalistes comme Nicolas Caro vivotent modestement, pendant que d'autres, notamment des chefs de service comme Ève Roger, patauge dans un luxe insolent. Le contraste est tel que longtemps, quand je parlais de la terrasse plein ciel d'Ève Roger, de son jacuzzi multijet, Nicolas pensait que je plaisantais, jusqu'à ce qu'il découvre récemment la cruelle réalité. Est-ce que le jacuzzi a été livré ?
Alors, à votre avis, eh ben oui, il est là dans l'entrée.
Mais je croyais que c'était une blague, moi.
Et là, c'est un moment terrible de radio où Nicolas Caro, qui pensait que c'était une blague, cette histoire de jacuzzi, découvre que vous êtes vraiment blindé.
Non, ça je savais, mais quand même.
Mais à ce point, oui, Nico.
Au point d'avoir un jacuzzi. Il y a des
gros écarts salariaux dans la rédaction d'Europe 1. Mais souvenez-vous de ce que disait la Bible, les premiers sont les derniers. Enfin, peut-être. Bref, aujourd'hui, vous nous parlez de best-seller. On est en pleine saison. Mais depuis le temps, est-ce qu'on a la recette ? C'est quoi un best-seller ?
Alors, la question n'est pas si évidente. Une fois qu'on a dit que c'était des livres qui se vendent à de très très nombreux exemplaires, c'est pas suffisant. À partir de combien y a-t-il un chiffre ? J'y viens. Mais effectivement, là, c'est la pleine saison des best-sellers, là maintenant. Elle aurait dû commencer en avril. Il y a eu un petit imprévu, comme chacun sait.
Petit.
Tout le monde sort ses poids lourds maintenant. Il y a d'ailleurs un petit embouteillage. Enfin, depuis la semaine dernière et dans les semaines qui viennent, on a eu le dernier Bernard Minier, La Vallée chez Ixo. Après-demain, mercredi, c'est le retour de Joël Dicker avec l'énigme de la chambre 622 aux éditions de Fallois. En passant, je peux vous le dire, il sera dans La Voix et Livre dimanche à 14h sur Europe 1. Il y a aussi Patricia Cornwell.
Il sera chez nous aussi. Il sera chez nous avant.
Qui débarque avec une nouvelle série au mois de juin, le roman s'appelle Quantum chez Lattès. Musso, Guillaume Musso, bien entendu, La vie est un roman, son dernier livre sort demain. Et justement, c'est intéressant, le livre sort demain donc, mais sur Amazon, il est déjà premier des ventes, et pas depuis aujourd'hui, depuis qu'il est disponible en précommande.
C'est dingue. Oh,
mais c'est hallucinant.
Alors c'est ça, mais c'est là un livre vendu avant même d'être sorti, c'est ça la définition.
C'est ça
en fait.
Pour moi. Alors attention, il y a différents types, donc j'y vais pour la définition. Mais j'aurai pas tous les éléments. Il y a une part de mystère là-dedans. Il y a des accidents. Un auteur qui vend beaucoup un de ses livres, mais qui vend mal les autres. Ça arrive. C'est souvent le cas avec les prix Goncourt. Le roman récompensé se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, parce qu'il a le bandeau. Mais ceux d'avant et ceux d'après, bof. Il y a aussi les long-sellers. Ça, c'est des romans qui ne cartonnent pas d'entrée, mais qui, au fil du temps, s'imposent. C'est le cas des Fourmis, par exemple.
Le roman de Bernard Weber. C'était pas un best-seller instantané.
1 million d'exemplaires, mais au tout début, dans les années 90, quelques dizaines de milliers, ce qui est beaucoup, hein. Mais ce qui est intéressant avec Les Fourmis, c'est que c'est un livre qui n'a marché quasiment que grâce au bouche à oreille et donc qui a mis du temps à se vendre. Et du coup, ensuite, la plupart, pas tous, des livres de Werber sont des best-sellers.
Et alors, c'est combien le chiffre ?
Ah,
pour savoir à partir
difficile.
De quand
oui.
on a un best-seller.
La notion de best-seller aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 20 ans.
Ah, c'est comme
aujourd'hui,
pour la musique. Hein,
ouais,
oui.
On peut commencer à parler d'un best-seller à partir de 20 000 exemplaires.
Mais non.
Aujourd'hui, 20 000, c'est gigantesque.
20 000 exemplaires ?
Ouais. Il y a 20 ans, c'était super, mais je ne suis pas sûr qu'on parlait de best-seller.
Non, oui, ouais.
C'était plutôt à partir de 60-70 000. Mais donc, ça donne une fourchette assez large. Bernard Minier, par exemple, il a vendu plus de 3 millions de livres.
Ça,
Lévy et Musso, ils sont autour de 50 millions en tout. Hein. Mm. Et encore, 50 millions, c'est chouette. Mais John Grisham, par exemple, la firme, l'affaire Pélican, c'est plus de 300 millions d'exemplaires. On ne peut même pas se représenter l'entrepôt qui les abrite. Stephen King, 400 millions d'exemplaires.
Et alors, vous connaissez mon côté vénal. Combien ça rapporte un livre vendu ?
C'est un peu compliqué aussi parce que ça dépend des contrats. Mais enfin, allez, disons, en moyenne, presque 2 euros par livre. Et je ne compte pas les adaptations au cinéma ou en série qui rapportent
donc
encore
de l'argent. Donc il faut quand même en vendre beaucoup. Hein.
C'est une bonne analyse.
Mais non, mais on ne s'en rend pas compte.
Parce que si vous en vendez peu, par exemple, ben, ça ne marche
mais
pas.
Mais si non, vous mais... en vendez 300 millions, tching.
C'est le jackpot. Et dites-moi, pendant que je me remets du gel hydroalcoolique sur les mains, parce que je suis quelqu'un de respectueux des consignes de sécurité, vous l'avez vendu à combien votre excellent livre que vous avez offert sur le masque de fer ?
1 million d'exemplaires.
1 million, 1 million 600 000, même m'a-t-on dit. Bravo, Nicolas Caro.
C'est pas un jacuzzi. Hein,
qu'est-ce qui fait ?
C'est autre chose hein, qui va pouvoir s'offrir.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, je sais pas, je cherche un truc plus grand qu'un jacuzzi.
Vous avez du mal à la piscine. En fait. Je vous donne des idées très simples. Hein, très simples. Et ben, on va rester très carré avec vous. C'est-à-dire que plus grand qu'un jacuzzi, ça peut être une piscine. C'est l'idée qui doit vous venir spontanément. On va travailler la spontanéité et la réactivité. Qu'est-ce qui fait qu'un livre est un best-seller, Nicolas ? Vous avez la
impossible
la clé.
À dire. Qu'est-ce qui fait qu'un tube est un tube? Je dis pas qu'il n'y a pas de recette. Il y en a un peu. Certains genres marchent mieux que d'autres. Certains types d'intrigues aussi, polar et histoire d'amour. Mais bon, c'est pas du tout suffisant. La qualité non plus n'est pas suffisante. Ça n'a même rien à voir. Un best-seller n'est pas forcément un bon livre. Pas forcément un mauvais non plus d'ailleurs. La quantité n'a absolument aucun lien avec la qualité. Sinon, on donne 3 étoiles Michelin au McDonald's. Oula. La notoriété non plus d'ailleurs. On connaît Musso, Lévy ou Minier, mais Françoise Bourdin par exemple.
Oui, c'est vrai ça.
Bizarrement, elle n'est pas hyper médiatique alors qu'elle vend à chaque fois des centaines de milliers de livres. Parfois, il y a des best-sellers inattendus aussi. Je vous ai déjà parlé de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Personne ne voulait de son roman. Il s'est suicidé à cause de ça. Le livre a finalement été édité et il a été vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il n'y a pas de règle, heureusement.
Merci Nicolas Caron. On rappelle votre émission La Voix est libre chaque
dimanche.
Chaque dimanche sur Europe 1 à quelle heure?
14h.
À 14h, je le savais, c'était juste pour vérifier si vous le saviez aussi.
Europe 1.
Bientôt, ils seront de retour parmi nous, nos précieux invités. Des stars qui aiment tellement l'équipe et sauvage que beaucoup d'entre elles sont revenues nous voir, parfois plusieurs fois. D'autres avaient très envie de me voir, mais n'ont pas pu pour de sombres raisons de planning. Quand notre programmatrice leur disait Mathieu Noël, ils disaient
« Ah non, pas lui, hein, qui vous voulez, mais pas lui !»
Ce lien exceptionnel et privilégié que j'ai su tisser avec les artistes, je vous propose de le redécouvrir avec notre séquence souvenir. Aujourd'hui, retour sur notre rencontre avec la décoratrice star Sarah Lavoine. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
En attendant de pouvoir accueillir à nouveau en studio des invités, chaque après-midi vers 6h moins le quart, on ouvre l'album souvenir. L'émotion est toujours très forte, surtout avec certaines invitées et eux, qui ne m'ont pas laissé indifférent. Heureusement, comme je suis un pro et que je sais prendre sur moi, ça ne s'est jamais entendu. La décoratrice Sarah Lavoine, par exemple, n'avait rien remarqué.
Ah mais moi j'adore. Je rêve d'aller à Naoshima, je sais pas si vous connaissez Naoshima, cette île musée.
Bah, je suis allé au Japon, mais bon, je suis juste allé à Tokyo, je suis désolé, et ça va.
Bah Mathieu, faut un peu voyager, faut un peu regarder ce qui se passe ailleurs.
Je suis nul.
Et Tadao Ando, l'architecte, vous connaissez?
Pas du tout, mais si c'est vrai, je suis nul. Vous avez plein de trucs à m'apprendre. On finit cette émission, puis ensuite on passe un moment. Sarah Lavoine était notre invitée le 21 novembre dernier. Bonjour Sarah Poniatowski.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de la maison Sarah Lavoine, nom qui brille au firmament de la décoration d'intérieur. Vous publiez Couleur Sarah aux éditions du Chêne, un livre dans lequel vous nous apprenez à harmoniser les couleurs en fonction de la pièce de la maison. Que pensez-vous de notre bleu européen? Est-ce que ça vaut le bleu Sarah ou c'est tout pourri?
Non, c'est pas tout pourri.
Elle est polie.
Je suis bien éduquée.
Il s'adresse à qui ce livre, Sarah? Il s'adresse aux novices comme moi ou aux gens qui touchent déjà un peu leur bille en déco?
Non, il s'adresse à tout le monde. Mais ce n'est pas forcément un guide que de la couleur ou par pièce. C'est vraiment mes inspirations. Il y a beaucoup de photos de nature, d'art, de voyage, d'architecture.
C'est un très beau livre, effectivement. Mais je me permettais de dire un guide parce qu'il y a, au-delà de la dimension artistique du livre qui est sublime, il y a des conseils, des vrais conseils techniques avec un panel de couleurs.
C'est un livre très graphique. Voilà, j'en suis très fière parce qu'on a beaucoup bossé sur l'iconographie, sur ça. Et vraiment, il est, je trouve, beau. Alors, sans prétention, mais voilà. Après, il s'adresse à tout le monde. Voilà.
Même les novices.
Même les novices.
Le bleu Sarah Lavoine qu'on voit sur la tranche, c'est quoi le bleu Sarah?
C'est un bleu...
C'est votre couleur préférée? Vous avez une couleur préférée?
Oui, c'est une couleur déposée même. J'ai ma couleur. Et vous, elle est déposée votre couleur bleue?
On va demander à Constance Vinquet, mais à mon avis, elle n'a pas vérifié. Hein.
Ben moi, elle est déposée, le bleu Sarah. Et donc, j'en suis très, très fière. C'est un bleu vert. C'est un échange avec votre humeur, avec la lumière naturelle, échange avec tout. Et je ne m'en lasse pas. Donc, c'est un bleu très profond.
Et quand est-il né ce bleu et comment vous l'avez réalisé?
Alors, si c'est possible de rentrer dans les... Je ne suis pas très bonne avec les dates, mais en fait, il s'est imposé à moi. Voilà, c'est lui qui m'a choisi.
Sarah Lavoine, quand on est, comme vous, une icône de la déco...
Une icône.
Est-ce que vous vous sentez investi d'une responsabilité quant à nos goûts, à nous? Vous forgez nos goûts quelque part. Moi, j'ai l'impression, quand je vois vos boutiques, que c'est mon goût. Mais ce n'est pas mon goût, en fait, c'est le vôtre qui a déteint sur les gens qui suivent la mode de la déco.
Ça, c'est une vraie question. Ah bah... Je ne me suis jamais posée, parce que je travaille à l'instinct, et donc je me dis pas, oh là là, je vais forger votre goût si vous rentrez chez moi. Mais c'est une bonne question, en effet.
Et vous, vos goûts ont changé au fil des années? Ou par exemple, ces couleurs-là, moi je trouve qu'elles sont très représentatives de vous. Et forcément, vous les avez choisies pour la couverture de votre livre.
Oui.
C'est des couleurs que vous avez toujours aimées ou c'est avec le temps que ça s'est
dessiné? Avec le temps, on a créé une collection de couleurs avec Maison Ressources. Mais non, moi je suis autodidacte, je n'ai pas fait d'études et tout ça, donc je me sens plutôt très vite un petit canard là-dedans.
Et est-ce que vous vous sentez une responsabilité vis-à-vis des gens qui ont mauvais goût? Par exemple, si vous entrez quelqu'un, le meuble est mal placé, le bleu, le rose, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous dites quelque chose?
Si, au contraire. Non, ma grand-mère m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de mauvais goût. C'était chacun son sale goût.
Plutôt ça, oui.
Voilà, donc il y a plein de gens qui n'aiment pas ce que je fais. Hein.
Vous dites que vous travaillez à l'instinct, mais pour revenir sur cette histoire de goût, vous dites « je ne me suis jamais laissé imposer le goût des autres ». Moi, c'est l'inverse. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, ça doit être comme ça, quand on n'a pas forcément le goût des choses. Moi, je me laisse facilement imposer le goût des autres. Moi, je rentre dans votre boutique, je trouve que tout est merveilleux.
Ah, parce que c'est fait pour ça.
Oui, mais c'est bizarre quelque part. Comment les gens comme vous, ça vient d'où cet instinct pour la couleur
Je pense que ça vient d'une curiosité sur le monde, d'un émerveillement perpétuel. C'est-à-dire que même de chez vous, il y a un coucher de soleil, enfin, il y a la Seine, il y a la lumière, et puis il y a un coucher de soleil. Et je ne m'en lasse jamais, en fait. Je m'émerveille toujours de cette nature ou d'une expo. Un tableau, j'étais voir dans l'expo Léonard de Vinci, c'est exceptionnel. Enfin,
mais là, dans l'expo Léonard de Vinci, vous avez trouvé des idées de déco.
Des idées de couleurs, des émotions, en tout cas ça provoque des émotions qu'on retranscrit en déco.
Eva.
Est-ce que vous avez une sorte de cahier des charges et des questions que vous posez régulièrement à vos clients pour comprendre ce qu'ils veulent? Vous voyez, une sorte de questionnaire de Proust, mais qui serait un questionnaire de Proust de la décoratrice.
C'est vrai que c'est beaucoup de psychologie quand on travaille pour des clients, surtout pour un appartement ou une maison. Donc tu rentres dans leur intimité. Donc moi, je n'ai pas fait d'études, sauf un peu de psycho, et ça me sert beaucoup finalement. Parce que surtout dans un couple, monsieur et madame ne sont pas d'accord.
Ah oui, c'est
pas très simple.
Bon, toujours, c'est toujours madame qui a raison. Hein, dans
pas toujours. Peut-être chez vous, mais pas toujours.
C'est toujours comme ça.
Europe 1.
Vous recevez des amis à dîner pour la première fois depuis le début du déconfinement et vous avez une pression monstre. Il faut dire que vous êtes un peu survendu pendant le confinement en matière de performance culinaire.
T'as devant toi le spécialiste de la Wish Lorraine et le spécialiste de travers de porc, c'est le poivre. À 23 ans, j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un méchoui.
Un méchoui ? Tu pipotes pas un peu, toi ?
Écoutez plutôt les conseils de quelqu'un qui sait vraiment cuisiner. Olivier Pouls arrive pour Délices in Extremis juste après. Alors là, Eva, c'est toute ma jeunesse. Je vais groover dans le studio. Virtual Insanity, Jamiroquai sur Europe.
Ça, c'est bien, par exemple.
Vous vous êtes mis en tête de fêter la fin du confinement en cuisinant pour vos amis cette semaine. Vous regrettez déjà votre initiative car vous êtes comme moi une bille en cuisine. Pas de panique, un pro est là pour vous aider. Il s'appelle Olivier Pouls, bon vivant hédoniste qui a choisi de faire du terroir sa religion au détriment de toutes les autres dont il a de fait du mal à comprendre les contours.
Pas de saucisse, pas d'alcool, les femmes voilées, enfin, excusez-moi, mais enfin c'est quand même...
Quand même quoi ?
Ben ça fait un peu Jacques Addy, pas de charcuterie, hein, vous pouvez pas.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour mes amis, mais moi Jacques Addy, sers-toi, mange ce que tu veux mon ami, et je l'écoute.
Ah oui, ça c'est votre religion et vous en êtes le meilleur prophète Olivier.
Oh, alors, on entend les petits oiseaux derrière
vous. On entend effectivement les oiseaux gazouiller dans votre jardin bourguignon.
Preuve qu'on les avait pas tous tués pour les bouffer.
Oui, ceux que j'ai pas mangés, voilà.
Alors dites-moi Olivier, est-ce qu'il y a une thématique cette semaine ?
Alors, on pourra peut-être en imaginer une, mais tout d'abord j'ai voulu aujourd'hui rendre un petit service à quelqu'un qui m'a envoyé un message et j'y étais assez sensible, c'est un message de Jérôme. Il me dit, mon papa est diabétique, il ne peut pas manger de sucre, je veux une idée de bon dessert sans sucre. Alors moi, vous savez que le sans ceci, sans cela, ça, c'est pas généralement trop mon truc, mais bon, j'ai quand même été sensible à ce petit message et j'ai donc décidé de lui proposer une recette goûteuse, sympathique, sans sucre, bien évidemment.
Je ne comprends pas comment c'est possible de faire un dessert sans sucre. Ouais. Allez-y, Paul.
Eh bien, écoutez, c'est même deux desserts en un, figurez-vous. On va commencer avec l'idée d'une mousse au chocolat. Alors, évidemment, il faut aimer le chocolat un peu costaud, hein, puisqu'il ne sera pas arrondi par la petite noce sucrée. Ouais. On trouve du chocolat sans sucre sans aucun problème, y compris dans la grande distribution. On va donc en prendre 100 grammes, 50 grammes de beurre, 3 œufs, une toute petite pincée de sel, parce que c'est un exhausteur de goût fantastique dans la pâtisserie. Et puis, il n'y a plus qu'à démarrer la recette. Alors, vous allez séparer les œufs, vous allez monter les blancs en neige, le chocolat, vous allez le faire fondre avec un petit peu de beurre, vous allez y rajouter les jaunes, vous mélangez tout ça, la petite pincée de sel, et ensuite vous incorporez tranquillement ce mélange aux œufs en neige, vous laissez prendre au frigo, et vous avez une mousse au chocolat forte en chocolat, que moi j'aime beaucoup parce que je ne suis pas un dingue de sucre, figurez-vous, et qui est vraiment délicieuse. Et alors, mon petit bonus, mon petit cadeau du lundi, les amis, c'est que vous prenez la même base de la recette, vous faites exactement la même chose. Dans la préparation, vous rajoutez 3 cuillères de farine, vous mettez ça dans des moules, dans un four, et vous laissez cuire pendant 20-25 minutes, et vous avez des petits cakes au chocolat, tout aussi délicieux, et tout aussi sans sucre.
Et voilà.
Et vous êtes emballée, Eva ?
Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les pâtisseries sans sucre, en fait.
Je crois pas que les petites muffins que vous avez préparées ce week-end étaient sans sucre, Eva.
Il n'y en avait quasiment pas.
quasiment
ah ouais,
pas.
Non, non,
et c'était bon quand même.
Ah ouais, c'est très bon.
Et je vais vous dire, c'est une vraie tendance aujourd'hui dans la pâtisserie que de travailler avec beaucoup moins de sucre. Aujourd'hui, dans tous les grands restaurants,
oui,
les chefs pâtissiers bannissent le sucre. Il faut savoir que le sucre raffiné, le sucre blanc qu'on mange beaucoup trop, est une véritable saloperie pour notre organisme, pour notre santé, etc. Donc, baissez les doses de sucre, faites des desserts sans sucre, mais plein de goût. C'est faisable et c'est bien meilleur, y compris pour vous, mon cher Mathieu.
Et oui, et comme vous me le disiez en antenne, tout ce qu'on ne mange pas de sucre, c'est ce qu'on peut manger en plus, de pâté en croûte,
oh
et
là
c'est
là.
Gagné. Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les jours dans l'équipe Et Sauvage et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Quatre journalistes en compétition, une seule couronne de chroniqueur du jour. À l'approche du verdict imminent désormais, leur stress s'intensifie, leur souffle se fait court, leur teint pâle.
Voilà, ils font cruic-cruic.
Ils font cruic-cruic, ils tremblent, qui l'emportera ? A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est le moment le plus délicat de cette émission, le moment où nous désignons le chroniqueur le plus méritant du jour, celui dont le sujet vous a le plus intéressé. Choix éminemment difficile, parfois déchirant, car chaque après-midi, l'équipe Et Sauvage réunit les tout meilleurs journalistes de France. Franchement, nos invités comme Guillaume de Tonquédec peuvent le confirmer, on n'en connaît pas de plus doués.
J'en connais deux, mais ils sont morts.
François Giroux et Albert Londres. Et pourtant, il faut bien les départager, ces journalistes. Pour ça, il y a le qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier et nous expliquer pourquoi ils étaient les meilleurs aujourd'hui. Anne Le Gall.
Parce que je vous ai fait découvrir un site de données mondiales qui permet un peu de reprendre sa place de citoyen du monde. Et puis en plus, Mathieu, comme ça, vous savez que vous allez fêter le réveillon de 2070.
Oui, bah, j'ai surtout su que j'allais mourir en 2071. Du coup, je vous remercie. C'est effectivement un très bon sujet pour lequel vous n'aurez pas de points. Nicolas Carreau, pourquoi voter pour vous ?
Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de recette pour écrire un best-seller. En fait, il y en a un petit peu une. Je vous la donnerai si je gagne cette manche.
Oh là là,
sans vouloir faire du chantage.
Quel fripouille
celui-là. Alice Mbida, pourquoi voter pour vous ?
Bien parce que je pense que mon sujet là sur les trottinettes autonomes, eh bien il va éprouver notre civisme. Il y a ceux qui vont se réjouir parce que justement il n'y a plus de bazar dans les rues. Puis ceux d'autres comme Eva qui vont s'amuser
à renverser les trottinettes autonomes.
Faut les renverser. Donc on va bien s'amuser.
Il révèle notre vraie nature. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous ?
Eh bien moi c'était une chronique sur le bonheur, le monde d'après, où j'ai montré l'importance de travailler, d'aller à l'usine. Et donc, quelque part, j'ai réconcilié Nicolas Hulot et Geoffroy Roux de Bézieux. Rien que pour ça, ça mérite une victoire.
Nous sommes en 1872 et Axel de Tarlé nous invite à retourner rapidement à l'usine. Qui remportera la compétition aujourd'hui ? Ah, c'est moi qui vote là. Alors, je vote. Alors, attention, je vais voter pour Nicolas Carreau.
Merci.
Un point pour Nicolas Carreau. C'était une belle chronique. On a appris pas mal de choses.
Vous cédez au chantage. Quoi.
Au chantage de qui ?
J'en reviens pas.
Non, j'ai pas gagné la manche encore.
Je sais bien que c'est bidon, mais c'est pas pour ça que je vote pour lui. Eva.
Hey, l'idée de mourir en 2064 là, me ravit parce que non, pas dépressive, au moins je meurs pas demain quoi. Donc je vais voter pour Anne.
Ah mais vous si vous passez sous une trottinette électrique, sous une trottinette.
Non mais je vote quand même pour Anne.
Et
voilà.
Tout se termine très vite.
Ouais.
Romain Causer, notre réalisateur, a lui aussi le droit de vote.
Mathieu, je vais voter pour Anissa Mbida et ses trottinettes téléguidées.
Oh là, c'est chaud.
Non, c'est très très serré aujourd'hui.
Ouais.
Ce sont les auditeurs qui vont vous départager.
Eh ben Axel, c'est vous qui gagnez parce que les auditeurs ils ont voté pour vous et comme ils ont deux points, bim, deux points pour vous. C'est vous qui gagnez.
Voilà. Et c'est amplement mérité. J'ai fait une tournée, moi, pour voir mes
éditeurs chéris. Amplement mérité. C'était la 179e journée de l'équipe Et Sauvage, les amis. Je remercie mes chroniqueurs du jour, Eva Roque, Anne Le Gall, Nicolas Carreau, Axel de Tarlé, Anissa Mbida, Olivier Pouls, Romain Causer et Christophe Pierrot en régie. Et mes télétravailleurs de l'ombre, Philippe Amardet, Claire Dutronc, Oriana Lévy et Sébastien Bordenave. L'équipe Et Sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez le monde changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à votre équipe Et Sauvage ensoleillée. Demain, vous recevrez Maxime Chattam, le roi du suspense. Ça se passe à demain à 16h avec vous Mathieu. À demain.